Radio Capi. Oh, Capi. Le journal présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, le premier président de la Cour d'appel de l'Itouri contre des fausses informations lancées par certains individus sur le fonctionnement de la justice. Emmanuel Chamavou a dénoncé ce comportement samedi à l'occasion de la rentrée judiciaire organisée à Bounia. Nous en parlons dans un instant. Des décès en cascade dans la prison centrale de Béni. Mais comment stopper cette hécatombe? Le médecin directeur de cette maison carcérale propose un désengorgement urgent de cet établissement pénitentiaire. Docteur Robert Mouira l'a souligné lors d'un atelier organisé avec la MONUSCO Béni. Notre invité est Moussa Kabwakoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema. Il revient sur l'importance de la conférence des gouverneurs pour sa province, comme la gestion transparente des ressources du Maniema. Mais sachez d'abord que Félix Tshisekedi a regagné Isiro hier dimanche après une visite de quelques heures à Bouta. Sur place, le président de la République s'est adressé à la population à qui il a promis la réhabilitation des routes nationales numéro 4 et 25, l'asphaltage de la voirie urbaine et l'électrification de la ville de Bouta. Le chef de l'État a aussi parlé de la gratuité de l'enseignement et de la maternité. Félix Tshisekedi a également appelé la population à accorder plus d'importance à l'agriculture afin de ne plus vivre que des mines pour ainsi diversifier l'économie du pays, selon l'agence congolaise de presse. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a enfin promis de rentrer à Bouta dans une année pour vérifier la matérialisation de toutes ses promesses. Rentrée judiciaire à Bounia, le premier président de la Cour d'appel de l'Ituri s'insurge contre de fausses informations lancées par certains individus sur le fonctionnement de la justice. Emmanuel Chamavou dénonce ce comportement pouvant aussi entraver la cohésion sociale dans une province où la paix est encore fragile. Le premier président de la Cour d'appel de l'Ituri a lancé cet appel samedi à l'occasion de la rentrée judiciaire organisée dans le chef-lieu de cette province. Le point avec Jean-Claude Loki-Dile.
Dans une interview exclusive à Cordia Radio Capi, Emmanuel Chamavou déplore cette attitude qui vit, selon lui, à ternir l'image de la justice. Ces personnes utilisent souvent les réseaux sociaux pour manipuler la population en usant de la désinformation.
Parce qu'il arrive que des affaires soient encore pendantes devant les cours et tribunaux, mais certaines personnes commencent à gibiler au quartier. Et cela, souvent, peut amener leurs adversaires à développer une certaine attitude négative vis-à-vis de la justice, vous constatez que vos droits sont en péril, venez voir les autorités judiciaires.
Pour sa part, le coordinateur de la société civile de l'Ituri appelle les autorités judiciaires à rendre une justice équitable en vue de renouer la confiance envers les justiciables. Dieudonné Lossa.
Nous avons besoin d'une justice distributive. Si on accuse qui que ce soit, qu'il soit sanctionné conformément à la loi. Mais l'impunité qui est en train de prendre de la place doit céder la place pour la justice distributive.
Différentes autorités militaires, policières et civiles, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme et la MONUSCO ont pris part à cette rentrée judiciaire qui s'est déroulée dans la salle d'audience de la Cour d'appel de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
On poursuit ce journal avec cette interrogation. Comment mettre fin aux décès récurrents dans la prison centrale de Béni, une maison carcérale où l'on estime que la moyenne mensuelle de décès est de 7,4%, nettement supérieure aux 2% tolérés selon les normes internationales. Le médecin directeur de la prison centrale de cette ville du Nord Kivu propose un remède. Docteur Robert Mouira estime qu'il est urgent de désengorger cette prison afin que d'autres problèmes de santé à la base des décès disparaissent. Il l'a dit la semaine dernière au cours d'un atelier organisé au quartier général de la MONUSCO à Béni par ses sections d'appui à l'administration pénitentiaire et d'appui à la justice. Docteur Robert Mouira est au micro d'André Kitenge.
Comme vous le connaissez, dans le milieu carcéral, nous avons un sérieux problème d'irrespect de la pyramide de santé. Et cette pyramide a été expliquée clairement et ça nous a permis de dégager les différentes causes de décès dans la prison de Beni Kangwal. Il a été noté qu'il y a la tuberculose qui fait rage dans la prison, qui est suivie aussi de la malnutrition, qui sont des maladies chroniques. Comme vous le savez, quand on est mal nourri, ça peut nous amener à décéder, indépendamment de tout ce qui peut être fait comme arsenal. Nous remercions la MONUSCO qui a doté la prison d'une infirmerie ainsi que des intras et quelques matériels. Déjà avec cette dotation, nous voyons que la prise en charge s'organise au sein même de la prison. Comme dans tout secteur, il y a des difficultés, même à la prison il y en a. Par exemple, nous faisons face à une surpopulation carcérale qui nous ajoute tous les problèmes qui sont collatéraux par rapport à cette surpopulation carcérale. Et notre grande bataille, c'est cette surpopulation. Une fois que nous allons agir sur cette surpopulation, les autres problèmes de santé pourront disparaître d'eux-mêmes.
Justice toujours, Pelé Mongo acquitté. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a innocenté l'entrepreneur congolais Mboyo Ilombe, alias Pelé Mongo, faute de preuves. Cet acquittement intervient après plus de 4 mois de détention à la prison centrale de Makala. Pelé Mongo était poursuivi pour trafic d'influence dans un dossier qu'il opposait au ministre de la Justice. Cependant, depuis son acquittement la semaine dernière, sa libération attend toujours l'autorisation du ministre, selon l'autorité pénitentiaire de Makala. Le Centre de réflexion juridique de lutte contre l'impunité dénonce une détention qualifiée d'arbitraire et sollicite l'intervention personnelle du président de la République. Son coordonnateur, Maître Franck Kalolo, est au micro de Jeff Ngoy.
Tout Congolais sait que les décisions de justice sont exécutoires et exécutées au nom du président de la République. Est-ce, selon eux, le président de la République s'oppose à l'exécution ou c'est l'individu du ministre? Nous sommes dans quel état? Nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous qui défendons toute personne dont ses droits sont bafoués, nous venons dénoncer. Et si cette décision n'est pas exécutée, dès ce lundi, nous allons, Sergili se réservera le droit de déposer une plainte contre cette dame qui fait l'intérim du directeur de la prison pour rébellion des décisions de justice. Ainsi, nous en appelons à l'implication personnelle du président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État et non un autre individu qui doit s'immixer dans le pouvoir et prérogative du président de la République. Que la justice soit faite pour que ce dernier recouvre sa liberté parce qu'il est détenu illégalement.
Autre nouvelle, Lubumbashi face à une criminalité grandissante. Aucune des 7 communes que compte cette ville du Haut-Katanga n'est épargnée et du coup, la population ne sait plus à quel sein se vouer. Et la situation devient encore plus préoccupante en cette période de pluie, raison pour laquelle la société civile demande aux autorités et à la police de prendre des mesures idoines afin d'éradiquer ce phénomène qui a déjà endeuillé de nombreuses familles. Suivez le reportage de Jean Gando.
Cette criminalité est caractérisée par des crépitements de balles et des visites domiciliaires nocturnes. D'après des témoignages, parmi ces bandits, on retrouve aussi bien les hommes en uniforme que les civils. Par moments, les civils sont aussi porteurs d'armes à feu. Une fois dans les maisons où ils entrent par effraction, ils braquent les occupants et exigent les biens de valeur. À certains endroits, ils tuent, volent et violent. Dans d'autres quartiers, cette criminalité se fait avec un nouveau mode opératoire. Ces bandits qui se promènent en groupe, constitués de plus d'une dizaine de personnes, cassent les vitres des maisons, brandissent les armes et menacent d'ouvrir le feu si rien ne leur est remis. C'est notamment l'argent, les téléphones, les ordinateurs portables et autres. Ce dernier temps, certains se spécialisent dans le vol des véhicules. Pour la société civile, juste pour le mois de novembre, ce sont plus d'une dizaine de personnes qui y ont déjà trouvé la mort et plusieurs autres jeunes filles et femmes violées. Des blessés sont aussi comptés par dizaines. Ils l'ont été soit par balle ou par arme blanche. Notons que cette question de la criminalité urbaine avait été aussi évoquée à Lubumbashi lors du conseil des sécurité présidée par le chef de l'État il y a près de 2 semaines. Lubumbashi, Jean Gando, Radio Kapi.
Place à présent à ces chiffres. Légère augmentation des cas de violence République démocratique du Congo de 30% par rapport au mois de septembre. Révélation contenue dans le communiqué du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Document publié vendredi dernier sur les tendances des violences de droits de l'homme observées au cours du mois d'octobre 2024. Sachez que ces tendances sont régulièrement publiées afin que des mesures adéquates soient prises pour protéger la population en difficulté. Etienne Lissoumbou a parcouru ce rapport pour nous.
Durant le mois d'octobre, le BCNUDH a enregistré beaucoup de cas de violations des droits de l'homme dans les différentes provinces du pays, notamment au Nord Kivu avec 54%, Ituri avec 13% et au Sud Kivu avec 11%. Ce rapport souligne également que la situation reste préoccupante pour les zones qui sont malgré les cessez-le-feu signés par le Rwanda et la RDC. Il a noté qu'il y a une diminution des cas de violations auprès des enfants affectant dans les cadres de conflits jusqu'à 4% par rapport au mois de septembre. Par ailleurs, la province du Nord Kivu a enregistré à elle seule 39 décès en détention. Ces cas de mort s'expliquent par les mauvaises conditions de vie, l'insuffisance de nourriture et les médicaments ainsi que la surpopulation carcérale. Les autorités ont donc le devoir de protéger la population. Soulignons que dans les cas de la coopération technique, le BCNUDH a organisé sur l'ensemble du territoire national au moins une vingtaine d'activités de formation et de sensibilisation au profit des 1290 personnes, dont 876 hommes et 414 femmes durant le mois d'octobre 2024.
Fin hier dimanche de la visite de 72 heures du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO à Bounia, Patrice Avahad a souligné que la population de l'Ituri veut la paix, mais cette paix ne peut venir que si l'on soutient les efforts des autorités de l'armée, de la police, des responsables judiciaires et de la MONUSCO. Il ajoute avoir rencontré différentes personnalités et des acteurs de la société civile qui ont tous manifesté le souhait de voir cette province retrouver la stabilité. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO a enfin salué l'engagement des Ituriens dans la recherche de la paix. Suivez un extrait des propos de Patrice Vahart, choisi par Jean-Claude Lokidile.
Je pars avec un seul message, c'est que ces populations veulent la paix. C'est vrai que quand on pense à l'Ituri, on voit les conflits armés, mais on devrait aussi voir ces fils et ces filles qui sont engagés à changer le narratif sur l'Ituri. C'est ce que je retiens et je voudrais donc saluer les frères et sœurs qui m'écouteront certainement grâce à vous pour leur dire que nous sommes ensemble. La MONUSCO est engagée dans ce cadre-là. C'est vrai, nous fêtons les 25 ans de présence, mais si vous vous rappelez, au moment où la MONUSCO s'installait, elle était présente dans tout le pays, parce que grâce à la coopération avec les autorités, une paix relative s'est faite dans plusieurs régions. Elle n'est présente maintenant que dans deux régions. Donc on avance. La paix prend du temps, mais elle prend un engagement collectif et nous ferons notre part.
Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre avec cette première à Beni dans le Nord Kivu. Une soixantaine de basketteurs de la ville se sont fait dépister volontairement au VIH-Sida et au paludisme ce dimanche par une équipe médicale du contingent malawite de la MONUSCO. Ceci entre évidemment dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre de chaque année, a expliqué le responsable médical de ces casques bleus. À la même occasion, un lot de médicaments a été remis à l'hôpital général de référence de Beni. André Kitenge nous fait le point.
L'activité a eu lieu au terrain municipal de basketball de Beni. Ici, des jeunes basketteurs trouvés sur place se sont fait dépister volontairement au VIH-Sida et au paludisme. Isaac Akonda, l'un des basketteurs, exprime sa joie.
Je voulais savoir justement l'état de ma santé et savoir si vraiment je me porte bien. C'était pour aider aussi les jeunes des baskets, comment savoir se protéger.
Après ce dépistage volontaire, un lot de médicaments constitués d'antipaludéens a été remis à l'hôpital général de référence de Beni par l'équipe médicale du contingent malawi de la MONUSCO. Le docteur Jérémy Mouindo, médecin directeur de cet hôpital, exprime sa satisfaction.
C'est un geste que nous saluons. Ce sont les produits qui vont pouvoir nous aider à soigner justement quelques cas de paludisme simple. Je crois que c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider à soigner, y compris les vulnérables à qui nous offrons les soins gratuitement.
Le docteur Vista Chasauka Banda, médecin responsable du contingent malawite, a expliqué les raisons de cette assistance.
C'est l'une de nos vocations, nous malawites, d'aider les Congolais. Et maintenant, si nous avons des médicaments, c'est bien d'assister les Congolais.
La région de Beni et Butembo connaît un taux élevé de prévalence du VIH-Sida. Selon les statistiques, il est de 7,2%. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Actualité internationale.
Joe Biden gracie son fils Hunter pour des affaires de fraude et détention illégale d'armes à feu. Évoquant une erreur judiciaire, le président américain a gracié son fils reconnu coupable dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Il avait pourtant assuré par le passé qu'il ne lui accorderait pas sa clémence. Notez que Joe Biden est encore président américain pour quelques semaines après la victoire de Donald Trump.
L'invité.
Notre invité est Moussa Kabwankubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema. Il revient sur l'importance de la conférence des gouverneurs pour sa province, notamment sur l'aspect touchant la gestion transparente des ressources de la province. Moussa Kabwankubi Moïse s'entretient ici avec Paulin Munanga.
Messieurs les gouverneurs Moussa Kabwankubi Moïse, bonjour.
Bonjour.
Comment s'est déroulée la conférence des gouverneurs à laquelle vous venez de participer?
La conférence s'est bien déroulée. Elle a été présidée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour rappel, la conférence des gouverneurs est un cadre de concertation entre les deux niveaux de pouvoir, les niveaux central et les provinces. Donc, c'est une occasion de passer en revue l'évolution de notre pays sur les différents domaines, les domaines politiques, les domaines sécuritaires, les domaines des infrastructures, les domaines économiques et financiers. Donc, c'est vraiment une occasion où on évalue et on prend des mesures correctives pour ce qui n'a pas marché.
Et quel a été l'apport particulier de la province du Maniema à cette 11e session de la conférence des gouverneurs?
Nous, comme nous sommes des formations économiques, nous avons participé à la commission socio-économique et nous avons contribué de manière active à cette conférence dans la formulation des recommandations.
Quelles ont été ces recommandations?
Bon, les recommandations sont nombreuses. Sinon, je peux seulement rappeler la recommandation forte de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, heureusement, coïncide avec ce que nous faisons déjà sur le terrain. C'est la gestion transparente de nos provinces, la gestion transparente des ressources de la province et la gestion participative. Donc, il nous a recommandé vivement d'associer les forces vives, d'associer les assemblées provinciales, d'associer la société civile, d'associer les autres forces, donc les confessions religieuses, la FEC. C'est ce que nous faisons déjà au Maniema. Ce que je dois vous dire, c'est qu'on ne formule pas les recommandations province par province. Les recommandations sont formulées de manière générale. Et on a eu trois commissions. Vous devez noter que ces problèmes-là, les problèmes que connaissent les provinces, sont un peu les mêmes partout. On a les problèmes d'infrastructure, on a les problèmes d'insécurité, on a les problèmes dans les secteurs sociaux. Et toutes les trois commissions ont formulé les recommandations qui concernent les manières, notamment les désenclavements de la province. C'est de cette manière que, aussitôt nous allons arriver à Kindu, nous allons maintenant lancer ce vaste programme que nous avions déjà annoncé, de réhabiliter déjà environ 2000 km de route par la méthode IMO, haute intensité de MEDEF. Et il est revenu encore sur cette recommandation consistant à passer 20 jours sur le terrain et 10 jours au bureau.
Et vous, vous le faites déjà?
Nous le faisons déjà bien.
En quoi cette conférence a été bénéfique pour votre province?
Elle a été bénéfique pour ma province sur beaucoup de points parce que en dehors des plénières et des commissions, par exemple, nous avons eu une réunion importante avec les chargés des missions de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et on a été en contact avec notre chargé des missions, en fait celui qui est chargé du Grand Kivu, dans l'ancien format, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, parce que pour nous, c'est une bonne occasion. Nous avons un point d'entrée auprès de Son Excellence, Monsieur le Président, pour traiter les problèmes cruciaux, parce que le Maniema a quand même beaucoup de problèmes particuliers en ce qui concerne l'insécurité, et c'est des choses que nous ne pouvons pas donner beaucoup de détails à la radio. Nous avons les problèmes d'infrastructure. Comment nous abordons ces questions-là? Et nous avons été ravis de nous entretenir avec les différents chargés de mission de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui ont été conduits par son directeur de cabinet adjoint en charge des questions économiques.
Êtes-vous satisfait de votre participation à cette conférence des gouverneurs?
Bien sûr que oui. Surtout à la résolution prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, elle est d'ailleurs constitutionnelle, d'organiser cette conférence 2 fois par an. Et nous avons noté que au mois de juin, nous allons encore nous retrouver au Lualaba chez son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka.
Monsieur le Gouverneur Moussa Kabouankoubi Moïse, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Irung, à Jude Bilanda et à Mimi Kindou.